بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons notre étude sur les règles du jeûne et l'auteur Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala entre dans un nouveau chapitre intitulé Babun as-sawmu fi as-safar wa ghayrih. Le chapitre du fait de jeûner en voyage. Le fait de jeûner en voyage. Donc le cours d'aujourd'hui va porter sur les règles relatives au voyage. Si je suis amené à voyager, à quel moment ou m'est-il autorisé de jeûner ou de rompre le jeûne? Le premier hadith qu'il apporte, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où elle dit أن حمزة ابن عمر الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. عائشة رضي الله عنها elle rapporte que حمزة ابن عمر الأسلمي qui était un homme qui jeûnait beaucoup. Il était connu pour le fait de jeûner beaucoup. C'est pour cela qu'elle dit « كان كثير الصيام » Il jeûnait beaucoup. Cet homme a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « أأصوم في السفر » Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois jeûner lors du voyage? Dois-je jeûner lors du voyage? Ça fait exprès. Alors il répond, le prophète alayhi salatu wa salam, in shi'ta fasoum. Si tu le souhaites, jeûne. Si tu le veux, jeûne. Wa in shi'ta aftir. Mais si tu le veux, tu romps le jeûne. Alors ici, parmi les leçons que l'on peut tirer de ce hadith, c'est déjà de prendre exemple, de prendre modèle sur le prophète alayhi salatu wa salam et sur ses compagnons. Et notamment sur ce sahabi, radiyallahu anhu, sur ce compagnon, qui s'appelle Hamza ibn Amr al-Aslami. Il était connu, et regardez jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, plus de 14 siècles après, il était connu pour être quelqu'un, kathir al-siyam, qui jeûnait énormément, qui jeûnait beaucoup. Et là, la bonne annonce est faite à celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan et aussi en dehors du mois de Ramadan. Le jeûne ne doit pas être fait, ce n'est pas une adoration qui est faite seulement pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan arrive, je jeûne, et les 11 mois qui viennent, je déjeûne. Yani, je n'entends pas parler du jeûne. Et ça, en réalité, c'est une erreur. Ce n'est pas le suivi conforme du prophète, alayhi salatu wa salam. Et là, on voit parmi les sahabas, radiyallahu anhum, ceux qui étaient accrochés au jeûne surérogatoire. Et subhanallah, parmi les signes et parmi les choses, parmi les belles choses que l'on peut faire une fois que le Ramadan sera parti, c'est ces deux grandes adorations, la prière et le jeûne, la prière de nuit et le jeûne du jour. Alors, dans ce chapitre, le mu'allif, l'auteur, rahimahullah, va nous ramener quelques hadiths où l'on peut tirer quelques règles du jeûne lorsque nous sommes en voyage. Alors, pour résumer cela, lorsque tu es en voyage, comme dans le hadith, en réalité, tu as le choix. Tu as le choix de jeûner comme tu as le choix de rompre le jeûne. Même si une personne voyage quelques heures avant le Maghreb, il lui est autorisé de rompre le jeûne. Bien sûr, il rattrapera son jour. Mais il lui est autorisé de rompre le jeûne. C'est-à-dire que même si la personne, elle débute son voyage en jeûnant. Prenons l'exemple d'une personne qui se dit « moi, je compte jeûner ». Et durant son voyage, il trouve une difficulté à jeûner. Il ne faut pas qu'il pense, il se dit « ah non, j'ai commencé mon jeûne, je suis obligé de l'arrêter ». Non, lui, il a la possibilité de le rompre durant son jeûne, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa salam. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam est parti avec ses compagnons dans un voyage, une expédition. Il a commencé, il a débuté ce voyage en jeûnant. Ensuite, arrivé en plein milieu du voyage, c'est-à-dire vraiment une bonne partie du jour avait été jeûnée, voire la plus grande partie du jour a été jeûnée, il s'est arrêté près d'un endroit comme un point d'eau et il a appelé. Et cela devant tous les sahabas. Il a appelé afin qu'on lui amène de l'eau et il a bu devant tout le monde. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a bu devant tout le monde. Et cela nous prouve, et même l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a mis dans son sahih, lorsqu'il ramène ce hadith, il met en titre, puisque l'imam Bukhari en profite de son livre, par rapport à ces titres. Lorsque l'on lit sahih al-Bukhari, on voit c'est quoi? C'est que des hadiths, mais pas que en réalité. L'imam al-Bukhari, dans les titres qu'il a mis, il a une explication de son hadith. Et dans le titre, il explique celui qui rompt le jeûne devant les gens. Il y a une dans le sens du titre, qui rompt son jeûne devant les gens afin de leur enseigner. Comme l'a fait ici le prophète, alayhi salatu wa salam, et cela, il était miséricordieux envers ses compagnons. Et il était le meilleur des enseignants, sallallahu alayhi wa sallam. Donc revenons à ce hadith. Le hadith de Ummu al-Mu'minin, la mère des croyants, Aïcha, radiyallahu anha, notre mère, la femme du prophète, alayhi salatu wa salam, où elle rapporte que Hamza ibn Amr al-Aslami a dit au prophète, alayhi salatu wa salam, puis-je jeûner en voyage? Et Aïcha, radiyallahu anha, nous donne cette précision qu'il était quelqu'un qui jeûnait souvent. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète, alayhi salatu wa salam? In shi'ta fasum. Si tu le souhaites, jeûne. Wa in shi'ta fa aftir. Et si tu le souhaites, romps ton jeûne et mange. Ce compagnon, radiyallahu anhu, comme on a vu, qu'il était connu pour être un jeûneur qui jeûne beaucoup. Et dans d'autres versions du hadith, c'était quelqu'un qui jeûnait énormément. C'était quelqu'un qui jeûnait, qui jeûnait souvent. Radiyallahu anhu. Et il est connu. Pourquoi ici cette précision, elle est importante dans le hadith? Yarhamukallah. Pourquoi cette précision? Et ici, on fait une petite parenthèse importante. Wallahi, mes frères, le fait de dire « Alhamdulillah » après éternuer, c'est un don parmi les dons d'Allah Azza wa Jal. C'est un grand bienfait, c'est un grand cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Méditez rapidement, une parenthèse, mais méditons ensemble sur cette chose-là. Tu éternues, donc d'une manière générale, tu n'as pas fait grand-chose. Tu as éternué. Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré, lorsque tu éternues, de dire Alhamdulillah. De remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait qu'il t'a donné. Et notamment le fait d'éternuer, c'est un signe, c'est comme on peut dire, si on peut dire, c'est le contraire du bâillement. C'est-à-dire que c'est un signe où tu es actif. Et toi, tu remercies Allah azza wa jal pour cela. Si tu dis Alhamdulillah, regardez le cadeau qu'Allah azza wa jal te fait. C'est un droit sur toi, envers tous ceux qui sont autour de toi, de te dire quoi? Yarhamukallah. Tu gagnes la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et personne n'entrera au paradis à part par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc regardez, subhanallah al-azim. D'un éternuement, tu peux gagner quoi? Rahma, la miséricorde, et à toi de répondre, yahdikum Allah, qu'Allah Azza wa Jal vous guide, wa yuslihu balakum, et qu'il améliore votre situation. Donc regardez un petit passage dans notre vie qui est un éternuement, pour la plupart des gens c'est insignifiant, mais en réalité notre dîn est complet, notre dîn est parfait, et même dans le fait d'éternuer, nous avons la possibilité d'entrer au paradis. Revenons à notre hadith. Yarhamukallah. Ici le fait que Aïcha radiallahu anha, elle nous cite qu'il était quelqu'un qui jeûnait souvent. Ça nous apporte quoi comme indication? Ça nous apporte que celui, et c'est connu auprès de tout le monde, celui qui a l'habitude de jeûner toute l'année, automatiquement le jeûne, c'est moins compliqué pour lui. Celui qui a l'habitude de jeûner toute l'année, quand on dit toute l'année, c'est 3 jours dans le mois, qu'il jeûne le lundi ou qu'il jeûne le jeudi ou qu'il jeûne le lundi et le jeudi ou qu'il jeûne, il a l'habitude de jeûner, il fait cette adoration toutes les semaines, tous les mois. Lui, quand arrive le mois de Ramadan, il ne trouve pas beaucoup de difficultés. Parce que pour lui, il a l'habitude. En réalité, c'est normal pour lui. Et le mois de Ramadan, c'est encore plus facile. Alors que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner, lui, le mois de Ramadan arrive, c'est un combat, c'est une difficulté, surtout les premiers jours. La faiblesse, la fatigue, le mal de crâne, etc. Voilà pourquoi il est important déjà de s'habituer à jeûner. Et il est important dans ce hadith d'avoir cette précision. Parce que celui qui a l'habitude de jeûner, automatiquement, il trouvera plus de facilité dans le jeûne, même lorsqu'il va voyager. Alors, le prophète, alayhi salatu wa salam, lui dit, si tu veux, tu jeûnes, si tu veux, tu romps le jeûne. Cela nous prouve quoi? Et ça, c'est la règle dans ce chapitre. La règle, c'est quoi? C'est que ce sujet est vaste. La règle générale, c'est que lorsque tu vas jeûner, lorsque tu vas voyager, pardon, tu as le choix de rompre ton jeûne ou, comme on le verra dans un autre hadith, que les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'ils voyageaient, il y en a certains qui voyageaient, il y en a certains qui jeûnaient et il y en a certains qui rompaient le jeûne. Ceux qui rompaient le jeûne, ne critiquaient pas ceux qui jeûnaient. Et ceux qui jeûnaient, ne critiquaient pas ceux qui rompaient le jeûne. Donc ça, c'est la règle générale. Maintenant, la question que l'on doit se poser, c'est quoi le meilleur? Si demain, maintenant, j'entreprends un voyage, quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce de jeûner ou est-ce de rompre le jeûne? Alors ici, les savants, ils nous ont donné une règle. Ils nous ont dit, ici, tu regardes al-mashaqqa, la difficulté. Si tu éprouves une difficulté dans ce jeûne-là, il est préférable pour toi de ne pas jeûner. Par contre, si tu n'éprouves pas de difficulté dans ce jeûne, alors dans ce voyage, pardon, alors à ce moment-là, il est préférable pour toi de jeûner. Il est préférable pour toi de jeûner. Comme nous le trouvons dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a donné le choix à Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu an de jeûner ou de rompre son jeûne. Également, cette règle, certains savants l'ont puisée et l'ont tirée à partir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Baqara où Allah azza wa jalil dit wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Celui qui est malade ou qui est en voyage jeûnera plus tard un nombre équivalent de jours. Celui qui est malade et qu'il trouve une complication dans le fait de jeûner, celui qui voyage et qui trouve une complication dans le fait de jeûner, à ce moment-là, il pourra compenser, il pourra rompre ce jour et il pourra compenser son jeûne. Naam. Ensuite, il ramène un autre hadith d'après Anas ibn Malik radiyallahu an. Et ici, il est important. Il est important, lorsque l'on étudie les hadiths, de faire attention à qui? Au rapporteur. Ce n'est pas pour rien qu'on rapporte, qu'on cite le rapporteur. Tu peux apprendre énormément de choses et nous allons simplement donner quelques leçons, quelques fawaïd des chaînes de transmission, de ce que l'on peut tirer des chaînes de transmission dans ce hadith et dans le hadith qui va venir après. Parce que généralement, on lit le hadith, on ne prend pas forcément compte, comme on ne connaît pas les hommes, c'est-à-dire les hommes du hadith, les rapporteurs, et en réalité, il est important. Il est important pour le musulman de connaître les pieux prédécesseurs, et un des meilleurs moyens de connaître les pieux prédécesseurs, c'est de connaître les rapporteurs des hadiths. Qui a rapporté ce hadith ? Anas ibn Malik. Qui était Anas ibn Malik, radiyallahu anhu ? Khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le servant du prophète alayhi sallatu wa sallam. Il était au service du prophète alayhi sallatu wa sallam. C'était le fils de Sulaym. Sulaym radiyallahu anha, lorsque son fils a eu 10 ans. Lorsque son fils a eu 10 ans, qu'est-ce qu'elle a fait avec son fils ? Est-ce qu'elle l'a inscrit au club de football le plus proche ? Est-ce qu'elle a fait ceci ? Est-ce qu'elle a fait cela ? Elle l'a pris. Subhanallah, c'était une famille très pauvre. Elle l'a pris dans un habit, elle l'a ramené au prophète, alayhi salatu wa salam. Et elle lui a dit, il est à ton service. Il est resté combien de temps au service du prophète, alayhi salatu wa salam ? 10 ans. Pendant 10 ans, il a accompagné, de 10 ans à 20 ans. Qui a fait l'éducation de Anas ibn Malik, radiyallahu an ? Al-Nabi, le prophète, alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu parle du prophète alayhi salatu wa salam, imaginez, il a vécu 10 ans avec lui, et pas n'importe quelle année, de ses 10 ans à ses 20 ans. Il dit, dans le sens de sa parole, il était celui qui avait le meilleur des comportements. Il ne m'a jamais dit, pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite? Ou pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as fait? Pendant 10 ans, le prophète alayhi salam ne l'a jamais réprimandé. Alors qu'il est connu qu'un enfant de 10 ans à 20 ans, il commet certaines bêtises. C'est connu, c'est dans la nature de l'être humain. Mais regardez le prophète alayhi salatu wa salam, le comportement qu'il a eu avec cet enfant. Et lorsque Sulaym, lorsque sa mère a ramené Anas ibn Malik au prophète alayhi salatu wa salam, le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué Allah azza wa jalla en sa faveur. Fait partie des miracles du prophète alayhi salatu wa salam, parce que les trois choses que le prophète alayhi salatu wa salam a demandé à Anas ibn Malik, à Allah, pour Anas ibn Malik, elles se sont passées. Premièrement, il lui a demandé kathratul mal, le fait qu'il soit riche, qu'il ait beaucoup d'argent. Et on a dit, il est venu dans une situation où il n'avait même pas d'habit. C'est-à-dire, sa mère l'a enveloppé dans un habit et elle l'a ramené. Il était très pauvre. Il a grandi dans une famille pauvre. Le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué en sa faveur kathratul mal. Et il est connu qu'il avait un jardin où il allait peut-être une ou deux fois par an. C'est-à-dire, il travaillait très peu dans son jardin, mais son jardin donnait énormément de fruits, énormément de richesses. Deuxièmement, il a demandé kathratul awlad, beaucoup d'enfants. Et il est rapporté qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il avait plus de 100 enfants et petits-enfants. À sa mort, il en avait plus d'une centaine. Vous imaginez, plus d'une centaine d'enfants et de petits-enfants radiyallahu anhu. Et kathratul umr, le prophète alayhi sallam, il a demandé à Allah azza wa jalla qu'il vive longtemps. Et il est connu que Anas ibn Malik radiyallahu anhu fait partie des sahaba, si ce n'est pas celui, mais ala kulli hal, il fait partie des compagnons qui sont morts en dernier. Il fait partie des derniers compagnons qui étaient encore en vie, radiyallahu anhu wa arda. Donc ça, c'est un point important, le fait de connaître les rapporteurs, le fait de connaître nos anciens, nos pieux prédécesseurs, nos savants, afin de profiter de leur vie. Alors Anas, radiyallahu anhu, il rapporte, il dit « Kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam » Lorsque nous étions en voyage avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, « Falam ya'ibi sa'im ala al-muftir » Le jeûneur ne blâmait pas celui qui mangeait. Et celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait. Donc ce hadith, comme le hadith précédent, nous prouve que dans ce sujet est vaste. Celui qui voyage, il a le choix. Celui qui voyage, il a le choix. Et on voit que les compagnons, radiyallahu anhum, ils voyageaient avec le prophète, alayhi salatu wa salam. Certains parmi eux jeûnaient et d'autres parmi eux rompez le jeûne. Et celui qui jeûnait, ne que tu voyages en famille. Le père de famille ne doit pas ordonner à tout le monde de rompre le jeûne. Ou il ne doit pas ordonner à tout le monde de jeûner. Il est possible que le père jeûne et la femme ne jeûne pas. Les enfants jeûnent et les parents ne jeûnent pas. Les parents jeûnent et les enfants ne jeûnent pas. Ça, il n'y a pas de mal. Et la même chose, l'un ne sauf si maintenant les enfants, un exemple, veulent absolument jeûner et le père, il sait qu'il y a une difficulté pour eux. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, les enfants doivent écouter le père. Parce qu'ici, il a le droit de leur demander de rompre le jeûne. Ici, bien sûr, en fonction des circonstances. Mais c'est un point important. Si maintenant nous voyageons ensemble, il se peut qu'il y en a parmi nous qui jeûnent, d'autres parmi nous qui ne jeûnent pas. Chacun ne doit pas critiquer l'autre, comme l'ont fait les compagnons, puisque ici, c'est tu as le choix. Le hadith suivant. An Abi Darda. C'est qui le rapporteur ici ? C'est Abu Darda. Alors ici, dans Umdatul Ahkam, on a simplement le nom du rawi, du sahabi. Mais lorsque l'on regarde la chaîne de transmission de ce hadith, on trouve que Abu Darda, qui a rapporté de lui ce hadith ? C'est Darda. Et Darda, il y en a deux. Lorsque l'on regarde, lorsque l'on étudie les chaînes de transmission des hadiths, on va trouver qu'on a deux fois Darda, deux personnes différentes qui s'appellent Darda. Et en réalité, les deux étaient les femmes d'Abu Darda. Ce qu'on en appelle Darda al-Kubra ou Darda al-Sughra. On va dire la grande Darda et la plus petite Darda. La première, al-Kubra, c'était une compagnon du prophète, alayhi salatu wa salam, et elle est morte alors que Abu Darda était encore vivant. La deuxième, al-Sughra, la plus petite, c'était une tabi'iyya, c'est-à-dire elle ne fait pas partie des compagnons. Et c'est elle ici qui rapporte ce hadith-là d'après qu'elle rapporte de Abu Darda. C'était une tabi'iyya, donc elle a connu les compagnons, mais elle n'a pas connu le prophète, alayhi salatu wa salam, et c'était une savante. C'était une alima jalila. Elle est connue parmi les savants des tabi'i. Naam. Parce que la femme également doit apprendre la science, et la femme également peut avoir ce statut-là auprès de son mari. Abu Darda, elle a appris l'ilm auprès de lui. Et ça, c'est rapporté de plusieurs parmi nos savants. Notamment Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Parmi ses plus grands élèves, c'était qui ? C'était son épouse. Et là, on voit le rôle du mari à l'intérieur de la maison. Le rôle du mari à l'intérieur du foyer. L'enseignement que le mari doit apporter à son épouse ou à ses enfants. La même chose, l'enseignement que la femme doit apporter à son mari, etc. Et là, il y a une grande leçon dans cela. Et Darda, elle apprenait la science de Abu Darda. وَحِينَ أَدْرَكَ الْمَوْتِ Jusqu'à ce que son mari, Abu Darda, a commencé à... Yani, la mort, lui, il était en train d'agoniser. Il était en train de mourir. Qu'est-ce qu'elle a dit Darda, elle lui a dit « أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ زَوْجَةً لَكَ فِي الْجَنَّةِ » Je veux être ta femme dans le paradis. Comme j'ai été ton épouse dans cette vie, je veux être ta femme dans le paradis. Alors Abu Darda, qu'est-ce qu'il lui a dit, radiyallahu an ? Il lui a dit, « La tatazawwaji ba'di » Ne te marie pas après moi. Pourquoi ? Parce que la femme sera dans le paradis avec le dernier mari qu'elle a eu. C'est-à-dire l'épouse qui est veuve et qui se remarie après. Et il n'y a pas de mal. Parce que des fois, c'est comme si c'était un grave péché ou c'est une honte dans la famille. Son mari est mort, elle se remarie. Non, elle a le droit de se remarier. Par contre, dans le paradis, elle sera avec le dernier mari sur lequel elle était. D'accord ? Donc une femme qui est veuve, imaginez 5 fois. Elle est veuve, elle se remarie. Elle est veuve, elle se remarie. Elle est veuve, elle se remarie. Alors, on n'a rien à lui dire, au contraire. Elle est totalement dans son droit. Par contre, avec quel mari elle sera dans le paradis ? Avec le dernier, yani le cinquième, le dernier des maris. Et ici, c'est ce qu'elle a fait Darda, elle ne s'est pas remariée. Et bien sûr, la femme qui ne souhaite pas se remarier, elle est dans son droit aussi, notamment si elle souhaite être avec son mari dans le paradis. Et certains sont venus la demander en mariage après. Certains sont venus la demander en mariage après, notamment Muawiyah. Muawiyah radiyallahu an. Muawiyah radiyallahu an, qui était le calife, qui était un des califes, pour rester avec son mari dans le paradis. Et là, on voit l'amour, l'affection qu'il doit avoir dans le couple musulman. D'accord ? Ça, c'est un point important. C'est un point important, cette renouveler, faire en sorte que, surtout pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, faire en sorte de faire des choses où tu vas retrouver le mahabba, tu vas retrouver l'amour, tu vas retrouver le plaisir de partager avec ton épouse. Et le meilleur plaisir que tu peux partager avec ton épouse, c'est l'apprentissage de la science. Parce qu'en réalité, le fait d'apprendre la science avec ton épouse, c'est ça qui va vous rapprocher. Donc Abu Darda radiyallahu anhu, il rapporte, il dit: kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi shahr Ramadan fi harr shadid. Il dit: nous sommes sortis en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan dans une forte chaleur. حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. Jusqu'à ce que, écoutez comment il décrit cette chaleur. Il est connu que entre Mecca et Médine, à la Mecque et à Médine, d'une manière générale dans la péninsule arabique, la chaleur est intense. Écoutez, il dit: jusqu'à ce que certains se protégeaient, s'ombrageaient avec leurs mains. Ils s'ombrageaient avec leurs mains, ils couvraient leur tête avec leurs mains. وَمَا فِينَ صَائِمْ. Donc, il décrit cette forte chaleur et en plus, il dit: il n'y avait personne d'entre nous qui jeûnait. Ça veut dire que cette chaleur était difficile même pour quelqu'un qui ne jeûne pas. Que dire de celui qui jeûne? Donc, il dit: وَمَا فِينَ صائم. Il n'y avait personne d'entre nous qui jeûnait, illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abdullah ibn Rawaha. Sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. C'était les deux qui jeûnaient. C'était les deux qui jeûnaient. Donc, ce que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que le prophète, alayhi salam, on rompu le jeûne. À part Abdullah ibn Rawaha, qu'il jeûnait en compagnie du prophète, alayhi salatu wa salam. Et il est connu que le fait de jeûner en voyage, c'est déjà compliqué. Surtout les voyages qui étaient à l'époque. Mais en plus de cela, jeûner en voyage avec une forte chaleur, cela augmente la difficulté. Cela augmente la difficulté. C'est pour cela que Abu Darda, radiyallahu an, nous décrit cette chaleur et nous le dit qu'on était tous, on avait tous rompu le jeûne, à part le prophète, alayhi salatu wa salam. Ce hadith nous prouve quoi? Qu'il est autorisé de jeûner, même s'il y a une difficulté. C'est-à-dire que là, en réalité, dans les hadiths, les trois hadiths qu'on a vus, on a tous les cas de figure. Lorsque tu jeûnes, tu as le choix. C'est-à-dire qu'il est permis de manger ou il est permis de rompre le jeûne, peu importe qu'il y ait une difficulté ou pas. Ça, c'est la première possibilité. Tu as le choix. Tu as le choix de jeûner. Tu as le choix de rompre le jeûne. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une difficulté. Puisque maintenant, quelqu'un va dire: oui, mais moi, je voyage. Je suis dans l'avion. On me sert du jus frais, du café chaud, on me sert ceci, on me sert cela, je suis à l'aéroport, j'ai tout ce que je veux, je ne trouve pas de difficulté. Ça ici, il faut faire attention. Premièrement, il est clair et net que la difficulté de notre époque n'est pas du tout comparable à la difficulté au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Ça, c'est clair. Par contre, la difficulté est différente en fonction des gens. Peut-être toi, tu vas prendre l'avion, et pour toi, c'est une partie de plaisir, c'est un bon moment, c'est un moment de repos. Peut-être que d'autres vont prendre l'avion, c'est terrifiant pour eux. Ils tombent malades, ils stressent, ils sont angoissés. Et combien ont peur de l'avion et combien sont angoissés durant l'avion? C'est pour cela qu'en réalité, la difficulté, elle va changer d'une personne à l'autre. Peut-être que toi, même que tu as un très bon véhicule, avec de très bons sièges, avec t'as toutes les options. Peut-être que pour toi, c'est une partie de plaisir de voyager avec ce véhicule, mais peut-être que pour quelqu'un, c'est une difficulté. Ala kulli hal, la difficulté, elle tombe, elle diffère en fonction des gens. Voilà pourquoi, lorsque tu juges, même si tu ne trouves pas de difficulté, parce que le voyage, comme les savants le disent, c'est ce qu'on appelle « madhannatul mashaqqa ». Ça laisse présager, il y a une probabilité de difficulté. Ce n'est pas tous les voyages qui sont difficiles, mais dans tous les voyages, il y a une probabilité de difficulté. Tu es dans l'avion, il atterrit à un autre endroit que tu devais faire, c'est une difficulté. L'avion, il s'écrase, c'est une difficulté. Annie, tu ne sais pas ce qu'il peut avoir dans ton voyage. C'est pour cela qu'il est permis de jeûner, il est permis de jeûner comme il est permis de rompre le jeûne, même si tu n'éprouves pas de difficulté. Par contre, il est permis de jeûner pour celui qui en est capable. C'est un choix, d'accord ? Mais comme on a dit, le meilleur dans cela, c'est quoi ? C'est de prendre la facilité. Donc la règle ici de base, c'est de prendre la facilité lorsque tu es en état de voyage. Le mieux, c'est de prendre la facilité. Si pour toi, la facilité, c'est de jeûner, dans ce cas-là, jeûne. C'est-à-dire que tu te dis, moi, ça me dérange pas de jeûner. Par contre, la difficulté sera de rattraper un jour. Je vois pas pourquoi je vais devoir rattraper un jour alors que je peux jeûner, ça va rien me faire. Dans ce cas-là, jeûne. Par contre, si la difficulté, c'est de jeûner, dans ce cas-là, rompe ton jeûne. Un autre point sur ce hadith-là. Méditez avec moi. Ici, le prophète, alayhi salat wa salam, a jeûné alors qu'il y avait une chaleur intense. Il a jeûné alors qu'il éprouvait une difficulté. Alors qu'on a dit juste avant que le meilleur, c'était quoi ? C'était de choisir la facilité. Alors pourquoi ici, le prophète, alayhi salat wa salam, n'a pas choisi la facilité ? Pourquoi le prophète, alayhi salat wa salam, n'a pas choisi la facilité ? Ici, les savants ont plusieurs avis dessus, mais nous allons prendre la parole de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, lorsqu'il explique ce hadith, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ce hadith, il est fortement probable qu'il s'est, yani cette histoire, elle s'est passée avant que le prophète, alayhi salatu wasalam, ait reçu la révélation qu'il était détestable de jeûner lorsqu'il y a une difficulté. Voilà pourquoi certains ont expliqué cela comme ça. Autre hadith dans le sujet, le hadith de Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah, dans Abu Huraira, là on voit Jabir ibn Abdillah. Essayez de retenir les noms avec moi. Vous allez voir pourquoi, on va ramener une faïda, bi'idhnillah, tout à l'heure, par rapport au rapporteur des hadiths. Il dit, « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi safar » فَرَأَ زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage, il a aperçu un attroupement autour d'un homme. Il a vu que les compagnons s'étaient attroupés autour d'un homme qu'on abritait du soleil. Donc imaginez cette scène, cet homme qui était par terre, qu'on abritait du soleil, et les gens autour de lui. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, « Ma hadha, quelle est cette situation ? Qu'est-ce que ceci ?» Alors ils ont dit, « Sa'im, c'est un jeûneur. C'est un homme qui jeûne. » Alors écoutez ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wasalam. « Laysa min al-bir, as-sawmu fis-safar. » Ne fait pas partie de la bonté, ne fait pas partie de la piété, le fait de jeûner en étant voyageur. Donc regardez ici la différence entre le hadith d'avant et ce hadith-là. Et on a cité que le hadith d'avant, la révélation ne lui était pas encore parvenue. Alors que là, le prophète alayhi salatu wasalam a dit clairement, « Laysa min al-bir as-sawmu fi safar. Ne fait pas as-siyamu fi safar. Ne fait pas partie de la bonté et de la piété le fait de jeûner en voyageant. » Et dans la version de Muslim, « Alaykum bi rukhsatillah. » Écoutez ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wasalam. « Alaykum bi rukhsatillah. » Prenez, acceptez donc la permission d'Allah. Prenez la permission d'Allah. « Allati rakhasa bikum. » Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous a autorisé. Alors ici, ce hadith, on voit qu'on a un allègement. un allègement pour celui qui est en voyage. Et d'autant plus, celui qui éprouve une difficulté dans ce voyage, ici, il est meilleur pour lui de ne pas jeûner. Il est meilleur pour lui de ne pas jeûner. Et d'autant plus, s'il jeûne, cela ne fait pas partie de la piété. S'il jeûne, cela ne fait pas partie de la piété. C'est-à-dire, cela ne fait pas partie de la piété totale. El birrul kamil. Meilleur, c'est quoi? C'est de profiter des permissions qu'Allah Azza wa Jalla t'a données. Et ça, c'est une règle dans notre religion que beaucoup, malheureusement, ne respectent pas. La règle, elle dit quoi? Wallahu tabaraka wa ta'ala yuhib an yu'ta rukhasahu. Allah Azza wa Jalla, il aime que tu prends de ses permissions, comme il aime que tu prends de ses décisions. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il t'ordonne quelque chose, si tu le fais, Allah, il aime. Il aime cela, il aime ton acte. D'autant plus que lorsqu'Allah Azza wa Jalla, il te donne une permission, il aime que tu la prends. Combien certains, ils voyagent et ils ne veulent pas rassembler les prières. Et il te dit, non, ça me dérange. Ou il ne veut pas raccourcir les prières. Et il pense bien faire. En réalité, non. Allah Azza wa Jalla, en voyage, il t'a autorisé, il t'a facilité ces choses-là. Parce qu'elle apprend les permissions d'Allah. Choisis la facilité. Notre religion, c'est une religion de facilité. Ce n'est pas une religion de difficulté. Comme dans les versets du jeûne, où on aura, incha'Allah, l'occasion d'étudier, bi'idhnillah, où Allah Azza wa Jal nous informe qu'il veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Et regardez cet homme qui a jeûné alors qu'il éprouvait une difficulté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est effondré. Il s'est effondré, il est tombé. Pourquoi tellement le jeûne était difficile pour lui? Il est tombé à cause du soleil, etc. Il est tombé. Alors le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il a dit? Laysa min al-birr as-siyam fi safar. Ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner, alors que tu es voyageur. Par contre, celui qui jeûne, maintenant qu'on a ce hadith-là, celui qui voyage, qui éprouve une difficulté, mais qui jeûne quand même, est-ce que son jeûne est accepté? Certains savants ont dit qu'à partir de cela, il était interdit. À la Kulihal, ce n'est pas la vie le plus prépondérant. La vie le plus prépondérant, c'est quoi? C'est que son jeûne, il est accepté. Il n'aura pas à rattraper un jeûne. Il sera récompensé pour son jeûne. Par contre, il n'aura pas fait la meilleure des choses. Il n'aura pas fait partie de ceux qui ont eu la piété complète, la piété totale. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit « Alaykum biruhsatillah allati rakhassa lakum » Acceptez les permissions qu'elle vous a donné, vous a mis. Donc ce que l'on tire de ce hadith, c'est qu'il est permis de jeûner en voyage, mais il est préférable de manger, car afin de profiter de la facilité, de profiter de la permission. Par contre, celui qui jeûne en voyage, ne fera pas partie de ceux qui ont eu la complète piété. Par contre, il sera récompensé. Également, autre hadith, toujours dans ce sujet, toujours un hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Un hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il rapporte, il dit, « Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi safar. » Nous étions en voyage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Faminna sa'im wa minna al-muftir. » Certains parmi nous jeûnaient et d'autres parmi nous ont rompu le jeûne. قال فنزلنا منزلا في يوم حار. Et nous avons fait une halte. Nous nous sommes arrêtés alors que c'était en pleine canicule. وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء. Et il dit, et parmi nous, il y en avait qui se protégeaient du soleil, de l'ombre, ils cherchaient de l'ombre avec leur manteau, leur habit, et d'autres avec leurs mains. Et d'autres avec leurs mains. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont arrêtés? Les jeûneurs, ils se sont effondrés. Les jeûneurs, ils se sont effondrés. Alors, tandis que ceux qui ne jeûnaient pas, c'est eux qui ont préparé les tentes, c'est eux qui ont pris les montures et les ont abreuvées. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhissalam lorsqu'il a vu cette situation? Il a vu cette situation où, parmi ses compagnons, il y en a qui jeûnent, il y en a qui jeûnent pas. Et là, on voit qu'il y avait une forte canicule, c'est-à-dire qu'il y en a qui jeûnaient avec la difficulté, il y en a qui ont pris la facilité. Lorsqu'ils se sont arrêtés, ceux qui jeûnaient sont abreuvés. Ils ont monté les tentes. Ils ont ombragé leurs compagnons. Écoutez ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wasalam. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الله أكبر. Ceux qui ont mangé, ceux qui ont rompu le jeûne aujourd'hui, ils sont repartis avec la récompense. Ils auront plus de récompense que ceux qui ont jeûné. Subhanallah al-Azim. Donc revenons sur ce hadith. Ce hadith, il a été rapporté par qui? Anas ibn Malik. Subhanallah. Regardez, tout à l'heure, Abu Huraira, ou dans les cours précédents, Abu Huraira, Aisha, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik, vous ne trouvez pas que c'est souvent les mêmes qui reviennent? Alors retenez avec moi, barakallahu fikum, il y a 7 compagnons, ulama ou sahaba, qui faisaient partie des savants parmi les sahaba. Il y en avait bien plus que 7, mais 7 qui ont rapporté le plus de hadith. Le premier qui a dépassé tous les autres compagnons. Man hu? Ahsant, Abu Huraira. Abu Huraira, radiyallahu an, il est surnommé Hafidh al-Sahaba. Le Hafidh, c'est un haut degré, plus haut degré dans l'apprentissage des hadiths. Hafidh al-Sahaba. Le Hafidh des compagnons. Il a rapporté combien de hadiths? Plus de 5000 hadiths. Abu Huraira, radiyallahu an, il a rapporté plus de 5000 hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Si je ne me trompe pas, 5374. Donc le premier, essayez de retenir les 7. Le premier, c'est Abu Huraira, radiyallahu an. Il a rapporté plus de 5000 hadiths. Ensuite, il y en a 3 qui le suivent, qui ont rapporté plus de 2000 hadiths. Plus de 2000 hadiths. Ce sont Aisha, donc regardez, Aisha, radiyallahu anha, Anas ibn Malik et Abdullah ibn Mas'ud. Donc là, on en a 4. Abu Huraira, plus de 5000 hadiths. Aisha, radiyallahu anha, Anas ibn Malik et Abdullah ibn Mas'ud, plus de 2000 hadiths. Et ensuite, il y en a 3 qui se suivent. Ce sont 3 qui ont rapporté plus de 1000 hadiths. Et parmi ces 3, nous avons Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah et Abu Sa'id al-Khudri de hadith. Donc, on essaye de conclure avec les 2 hadiths qui nous restent. Donc regardez cette histoire où Anas ibn Malik radiyallahu an, il nous rapporte qu'il était en voyage avec le prophète alayhi salatu wasalam. Certains parmi nous rompaient le jeûne, d'autres parmi nous continuaient leur jeûne. Et lorsqu'ils sont arrêtés ils faisaient une période de canicule et ils ont fait une halte. Parmi eux, certains ombragés, donc avec leurs vêtements, ils mettaient ce qu'ils mettaient un bâton dans un arbre, ils mettaient leurs vêtements histoire de faire comme une tente pour avoir de l'ombre, etc. Les jeûneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont allongés. Ils se sont allongés, ils ne pouvaient plus bouger, ils étaient faibles. Ils sont tombés, fatigués. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ne jeûnaient pas? Ceux qui ne jeûnaient pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à préparer des tentes, al-khiyam. Ils ont commencé à abreuver les chamelles, les chameaux, ils leur ont donné de l'eau, etc. Ça veut dire que c'est eux, ils ont fait le travail de tous les autres. Parce que les jeûneurs étaient dans une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Ceux qui ont rompu le jeûne auront la plus grande récompense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est eux qui ont été utiles à leurs compagnons. Ils ont été utiles en choisissant la facilité, ils ont été utiles à leurs compagnons. Et cela nous prouve nous prouve encore une fois qu'il n'est pas bon de jeûner lorsque tu éprouves une difficulté. Et également, parmi les fawaïd que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que regardez comment les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient au service. Ils étaient au service de leurs compagnons. Et ça, c'est comme ça qu'on doit être dans notre communauté. On doit être au service des gens. Quelqu'un a besoin d'aide, soit à son service, soit au service de ton prochain. Rends-toi utile pour la communauté. Et d'autant plus en voyage. Regarde lorsque tu es à l'aéroport et tu vois des personnes âgées qui sont complètement perdues. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment faire, ou lorsque tu proposes leur... Et Annie, rends-toi utile pour la communauté. Rends-toi utile pour la communauté, parce qu'en réalité, dans cela, il y aura une grande, grande récompense. Donc là, on voit ceux qui n'ont pas jeûné ont été récompensés par rapport à ceux qui ont jeûné. Également, on voit, donc on tire de ce hadith, la permission de jeûner, de manger durant le voyage, bien que la rupture soit préférable, surtout en cas de besoin. Également, ce hadith nous prouve la valeur des sahabas, la valeur des compagnons, le mérite qu'ils ont, et notamment leur comportement, et le mérite qu'une personne a à être au service de son compagnon de voyage. Et cela fait partie de la religion, cela fait partie des nobles caractères du fait d'assister tes frères et tes sœurs en islam. Également, cela nous prouve que le musulman, il ne doit pas être paresseux. Le musulman, il ne doit pas être fainéant, il doit travailler, il doit être utile, il doit être dégourdi. Le musulman, il ne doit pas être, il doit savoir se débrouiller et il ne doit pas attendre que tout le monde il ne doit pas attendre après les gens. Il ne doit pas être paresseux, etc. Donc on termine avec ce hadith. Voilà ce que l'on peut... on a terminé, alhamdoulilah, le chapitre du jeûne en voyage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum.